A passenger has died. He was murdered.
Monsieur Poirot.
Un thé avec Agatha Christie.
I am Agatha Christie.
Sonia Fairchak.
Elle a écrit « Le crime de l'Orient Express et le meurtre de Roger Ackroyd ». Mort sur le Nil, et ils étaient 10. Des chefs-d'œuvre de la littérature policière, des chefs-d'œuvre tout court. Elle, c'est Agatha Christie, la romancière la plus lue au monde. Aujourd'hui encore, ses livres continuent de se vendre comme des petits scones, à raison de 4 millions par an. Et si vous allez à Londres, on vous conseillera sûrement d'aller voir La Souricière, The Mousetrap, un monument du théâtre signé Christie, qui fête 75 ans de représentation. Alors que dans quelques jours, nous célébrerons les 50 ans de sa disparition, je vous invite à mener l'enquête, à l'heure du thé, en explorant sa vie, son œuvre et les raisons de son incroyable succès. Bonjour, bienvenue dans un thé avec Agatha Christie.
France Inter, un thé avec Agatha Christie. Épisode 3. Famille décomposée.
Le grand sujet de toute l'œuvre d'Agatha Christie, c'est la famille. Sur 66 romans, plus d'une cinquantaine mettent en scène un crime familial. Au départ, ce n'est pas vraiment un choix de la part d'Agatha. Mais très vite, ces crimes discrets d'intérêt domestique vont devenir sa marque de fabrique. Famille décomposée, marque déposée. C'est ce que nous allons tenter d'élucider ensemble dans un premier temps, avant d'inviter la philosophe Laurence de Villers à rejoindre notre enquête. Laurence de Villers voit en Agatha Christie non seulement une philosophe, mais une moraliste, qui questionne constamment le bien et le mal.
Esther Argyll se regardait dans la glace. Sans vanité, semblait-il. Ses yeux trahissaient plutôt cette sorte d'hésitation craintive, propre aux personnes qui ne sont jamais sûres d'elles-mêmes. Un moment, la jeune fille rejeta ses cheveux en arrière et fronça les sourcils devant le résultat obtenu. Soudain, elle eut un sursaut et se retourna, apeurée. Dans la glace, un visage était apparu.
Oh, vous avez peur.
Peur ? Et de quoi ?
Peut-être pensez-vous que je me suis glissé discrètement derrière vous, dans l'intention de vous frapper.
Voyons, Christie, ne soyez pas aussi absurde. Comment une telle idée pourrait-elle me venir à l'esprit ?
N'empêche que vous avez eu peur, et vous avez raison. Il y a lieu d'être inquiet dans cette maison. Nous ne le savons que trop bien maintenant.
Je commence à croire que vous parlez sérieusement.
N'en doutez pas, nous devons voir les choses sous leur vrai jour. Prétendre qu'il n'est rien arrivé serait une folie. L'homme qui est venu ici, et je le déplore, nous a prouvé que Jaco n'était pas l'assassin. Dans ces conditions, quelqu'un d'autre a tué. Et ce quelqu'un se trouve obligatoirement parmi nous.
C'était Témoin indésirable, l'un des romans préférés d'Agatha Christie, paru en 1958. Dans cet extrait, la romancière plante le décor d'une intrigue exclusivement familiale. L'assassin se trouve obligatoirement parmi eux. Les choses sont claires. Deux ans auparavant, en 1956, Agatha Christie est interviewée dans le magazine Life et ce qu'elle raconte est déterminant. Elle s'est spécialisée dans, je cite,
« les crimes discrets d'intérêt domestique ».
Comment en arrive-t-elle à ce choix ? Quelles sont les circonstances qui vont l'amener à mettre la famille au centre de son œuvre ? Permettez-moi de revenir au début de sa carrière. Nous sommes en 1917. Agatha commence à penser à son premier texte, en pleine Première Guerre mondiale, et plus précisément au laboratoire de l'hôpital de Torquay, où elle travaille comme préparatrice en pharmacie. Agatha s'ennuie, alors elle décide de s'atteler à son futur crime. Là, elle regarde autour d'elle et qu'est-ce qu'elle voit ? Des fioles, des flacons, des pilules, des onguents, des gouttes et des suspensions. des remèdes qui, tous, sont aussi des poisons. Si la bonne dose de cobalt ou de ricin guérit le patient, ces mêmes substances en excès le conduisent droit au cimetière. La future romancière en est sûre. Son histoire serait celle d'un empoisonnement. Morphine, digitaline, strychnine, dorénavant les toxiques, c'est son rayon. Ce choix du poison l'amène assez naturellement à opter pour un meurtre intime. Un meurtre discret, comme elle l'a dit à Nigel Dennis, le journaliste du magazine Life. Et ce, pour des raisons pratiques. On empoisonne rarement un inconnu, ce ne serait pas vraisemblable. Il est plus facile de verser l'arsenic dans le thé de sa victime quand on a l'occasion de passer du temps avec elle. Et si c'est sous le même toit, c'est encore mieux. Plus facile aussi de l'empoisonner quand on sait où sont rangées ses gouttes pour le cœur. Agatha en est sûre. Tout doit se passer en famille. Quelques jours plus tard, l'apprentie romancière croise dans un tramway un homme à la barbe noire. Il est accompagné d'une femme âgée qui jacasse comme une pie. La jeune Mrs. Christie les observe. Son imagination se met en marche. Elle commence à ajouter des personnages. Un fils, une fille, un neveu. Il faut multiplier les suspects. La famille prend forme. La toile de fond de son premier roman sera le manoir de Stiles et la lignée des Cavendish Inglethorpe. Avant de réfléchir au meurtre proprement dit, elle dresse une généalogie. L'apprentie autrice se souvient alors de ses discussions avec sa sœur Madge. C'était à l'époque du défi, dont j'ai parlé dans l'épisode 1, lundi. Quand sa sœur aînée avait dit à Agatha qu'elle n'arriverait jamais à écrire un roman policier, Madge, qui avait quand même bien potassé le sujet, avait rappelé deux contraintes pour un roman à énigmes. 1. Le lecteur doit être mis sur le même pied que le détective. Il doit avoir accès aux mêmes indices. 2. Ces indices ne doivent pas être trop évidents. Ils seront donc cachés tout le long du texte. Le coupable doit faire partie d'un groupe limité de personnages connus dès le départ. Pas de tueur opportuniste ou de gangster en maraude. Pas question que le meurtrier jaillisse de nulle part, revolver au poing pour zigouiller son prochain. Ce qu'il faut, c'est un petit groupe d'individus où tous peuvent avoir fait le coup. Dans le laboratoire de pharmacie à Torquay, la jeune autrice travaille son intrigue. Elle réfléchit au mode opératoire. Pour plus d'efficacité, elle adopte le point de vue du meurtrier. Personne ne doit le voir manipuler le cyanure ou faire macérer ses brins de muguet. Ce serait trop facile. Si l'assassin veut agir en toute discrétion, plusieurs possibilités s'offrent à lui. La première. Le crime est visible et seul le mobile est incompréhensible. C'est bien un assassinat. Tout le monde s'en rend compte, mais le détective ne sait pas qui a tué ni pourquoi. Le détective ne sait pas encore, le stratagème est faiblard. Deuxième possibilité. Le crime lui-même est rendu invisible. L'entourage, le médecin, la police croient à une mort naturelle ou à un suicide. Là, le stratagème est correct. Troisième possibilité. Le crime est évident, mais son mobile est caché derrière un autre mobile factice. Le meurtrier cache les sentiments profonds qui motivent son projet. Le stratagème est machiavélique. Dans un de ses romans, dont je tairai le nom pour ne pas tout divulgâcher, Christie invite un assassin qui dissimule son meurtre, un crime familial, au milieu d'une série d'autres meurtres, apparemment aléatoires. Il fait croire à l'œuvre d'un fou, c'est le faux mobile, alors qu'il s'agit d'un crime isolé, le vrai mobile. À nouveau, Agatha se félicite de connaître les poisons. Selon la quantité de toxique et l'heure à laquelle il est administré, selon le type de nourriture auquel il est mélangé aussi, la romancière peut jouer sur le créneau au cours duquel le crime a pu être commis. Ce qui lui permet d'incriminer un plus grand nombre de suspects, c'est parfait. Comment savoir à quel moment le poison a été ajouté au tube de dentifrice? Quand le flacon d'aspirine a-t-il été remplacé? Difficile à trancher. Comme dans ce passage des cinq petits cochons.
Quels ont été les faits et gestes des autres personnes ce matin-là ?
Nous avons tout épluché. Je vous garantis, chacun y est passé. Personne n'avait de véritable alibi. C'est impossible dans les cas d'empoisonnement. En effet, rien n'empêcherait un assassin potentiel de donner à sa victime une capsule de poison la veille en lui disant qu'il s'agit d'un remède contre l'indigestion qui doit être pris avant le déjeuner, puis de partir, séance tenante, à l'autre bout de l'Angleterre.
Petit récapitulatif à l'usage de l'assassin consciencieux. Pour un meurtre bien ficelé, l'idéal, c'est un mobile tenu secret. Et l'arme parfaite pour un mobile tenu secret, c'est un poison discret. Ce qu'Agatha théorise dans ce fameux entretien du magazine Life en 1956.
Donnez-moi une bouteille de poison décente et je vous construirai un crime parfait.
Côté poison, c'est acté. Mais côté mobile tenu secret, le plus intéressant reste à faire. Le meurtrier doit être un champion de la manipulation, le roi ou la reine des hypocrites. Pour que personne ne puisse deviner son projet d'assassinat, il faut absolument qu'il ait le temps de s'attirer la sympathie. Plus longtemps il peut donner le change, moins il aura de risques d'être soupçonné. C'est là où la famille s'impose à nouveau. Car dans quel autre cadre trouve-t-on à la fois un tel chaudron de passions humaines et le temps nécessaire à la mise en place de l'hypocrisie ? Ce coup de génie va différencier définitivement Agatha de tous les autres auteurs de romans à énigmes. Avant elle, écrire une bonne intrigue, c'était faire un exercice de style. L'auteur devait trouver le meilleur moyen pour que le lecteur ne devine ni l'identité, ni le mode opératoire de l'assassin. C'est l'énigme en chambre close, dont les maîtres sont le français Gaston Leroux et avant lui, l'américain Edgar Allan Poe. Comment l'agresseur de Mathilde Strangerson a-t-il pu quitter la pièce fermée de l'intérieur dans le mystère de la chambre jaune ? Ou comment le meurtrier s'est-il échappé de l'appartement hermétiquement clos après avoir commis son double assassinat dans la rue Morgue ? Ces deux casse-têtes, Agatha les a lues et admirées, mais ce qu'elle va, elle, mettre en œuvre, c'est le ressort psychologique. Et dès la mystérieuse affaire de Stiles, en 1920, chacun sent que son originalité n'est pas uniquement de savoir comment l'assassin a pu commettre son crime, mais quelle est la portée, le pourquoi du meurtre en famille.
Si vous le permettez, je voudrais vous poser une ou deux questions au sujet de l'après-midi d'hier.
Oui, monsieur.
Votre maîtresse a eu une dispute ?
Je ne sais pas si je le dois...
Ma bonne Dorcas, Madame Inglethorpe est morte. Nous devons tout savoir et dans les moindres détails si nous voulons la venger.
Alors là, pour ça, oui, je suis d'accord. Sans vous donner de nom, monsieur, dans cette maison, il y a quelqu'un qu'aucun de nous n'a jamais pu sentir.
Hein ?
Dans cet extrait de son premier roman, Agatha n'hésite pas à tirer sur la corde du ressentiment familial et du trouble. D'où lui vient cette singularité ? De sa liberté de penser, sa sensibilité et son sens de l'observation, des qualités qu'elle tient de sa mère. Clarissa Miller se montrait parfois si perspicace que ses enfants pensaient qu'elle était une sorcière. Clarissa était capable de deviner les pensées d'autrui, particulièrement les mauvaises, évidemment. Et encore plus quand ces mauvaises pensées traversaient l'esprit de ses enfants. À tel point que sa fille Madge, qui n'avait pourtant peur de rien, préférait se montrer prudente.
Tout ce que je ne veux pas que maman sache, j'évite d'y penser quand elle est dans la même pièce.
Rosalind, la fille unique d'Agatha et Archibald Christie, affirmait même en 2003 que sa grand-mère Clarissa Miller était une femme dangereuse. Forte et dangereuse, à tel point qu'Agatha n'a jamais pensé que sa mère pouvait se tromper. L'amour dévorant d'une mère pour ses enfants, elle en fait le ressort de plusieurs de ses romans. L'emprise que la mère peut exercer sur eux aussi, ce sont quand même des thèmes très intéressants quand on est spécialisé dans les crimes d'intérêt domestique.
France Inter, Sonia Fertchak, Un thé avec Agatha Christie.
Aujourd'hui, famille décomposée.
Il y en a qui collectionnent les scarabées. Il y en a qui affectionnent les macabées. Il y a des gens qui ont la passion des orthoptères et des ascensions, des vieilles cafetières, des pipanthères et des occasions. Il y en a qui collectionnent les assiettes bleues. Il y en a qui se passionnent pour le vin vieux. Tous ces gens cherchent sans arrêt l'idéal qui les satisfait. Mais moi, le seul truc qui me plaît, voilà ce que c'est. Je suis un monstre de perversité. Je suis le contraire d'une sœur de charité. Je remplis des malles de cœur de mal. Je m'en régale avec avidité. Je suis le tombeau des passions déchaînées. Ma seule joie, c'est de voir les cœurs saigner. J'arrache les âmes pour en faire des beignets. Je suis un monstre de perversité. Mais vous n'avez encore rien vu. Vous prendrez bien une petite tasse de thé. J'imagine un homme entre mes mains. Babylone ou Sodome ne sont plus rien. Je le déshabille, je le vois de pied. Il ferme les yeux, prétend se pâmer. Et je lui balance un pot de faïence plein de glacé. Je l'ai des petits mazos, des enfants de cœur qui se flanquent des coups de ciseaux pour se faire peur. Moi, si jamais on me condamnait, je demanderais une glace au geôlier pour voir ma gueule quand le bourreau me décapiterait. Je suis un monstre de perversité et pourtant j'en tire pas vanité. Tueur notoire, tyran d'histoire, bandit sans gloire, pauvre sœur habillée. Tout le jour j'assassine sans répit et je rédige mes aveux par écrit. Je gagne ma vie dans le roman policier. Je suis un monstre de perversité.
C'était Belle du Berry, Je suis un monstre de perversité. Tout un programme signé Boris Vian. Vous êtes bien sur France Inter dans un thé avec Agatha Christie. Dans chacun de ses 66 romans, Agatha Christie raconte que l'amour peut être ambivalent. S'aimer est une chose, s'aimer bien en est une autre. Entre parents et enfants, au sein d'une fratrie, dans un couple, on peut s'aimer mal. Alors, son rôle de romancière sera d'affoler les passions humaines jusqu'au crime.
Désolé de décevoir tout le monde. Il va falloir me supporter encore un peu.
Tiens, voyez, Émilie, vous n'avez rien. Vous n'avez pas fait mal. Mais j'appelle quand même un médecin, si
jamais. Non, non. Ce n'est pas d'un docteur dont j'ai besoin. Aide-moi à monter dans ma chambre.
Viens, doucement.
Le spectacle est fini.
C'était un extrait de Témoin muet, une adaptation française du roman pour la série Les Petits Meurtres d'Agatha Christie, créé et produit par Sophie Réville, qui était la première invitée de notre thé avec Agatha. Laquelle Agatha ne part pas de rien. Dans la vraie vie, l'ambivalence, Agatha, ça la connaît. Ambivalence d'amour et de rivalité, avec sa sœur Madge. Ambivalence d'amour et d'emprise, avec sa mère Clarissa. Et maintenant, dans la famille Miller, je demande le frère. J'ai raconté dans un épisode précédent que je parlerai de lui. Lui, c'est Louis Montand Miller, dit Monty. Eh bien, c'est le moment. Voici le portrait qu'en fait la romancière.
Dans toute famille, il y a en général un membre qui est source d'ennui et de préoccupation. Chez nous, c'était mon frère, Monty. Jusqu'à sa mort, il aura toujours donné des migraines à quelqu'un. il n'aurait jamais eu la ténacité nécessaire pour devenir professionnel en quoi que ce soit. L'idée ne lui en est d'ailleurs sans doute même pas venue. Il avait du savoir-vivre, beaucoup de charme, et il a pendant toute sa vie été entouré de gens soucieux de lui éviter les ennuis et les tracas. Hormis son penchant pour la littérature, Monty était intellectuellement limité. Je crois que mon père et ma mère avaient tous deux compris qu'il allait être difficile.
Effectivement, embobineur toujours à court d'argent, il passe la période d'avant la Première Guerre à tenter de monter un service de cargo sur le lac Victoria, en Afrique de l'Est. Pour armer son premier bateau, il lui faut de l'argent. Monty se tourne vers Madge, son aînée d'un an. Madge qui n'hésite pas. Elle lui prête la majeure partie de son capital. Contre l'avis de son mari James Watts, qui ne peut pas supporter son beau-frère. On le comprend. Monty va gaspiller l'argent en achetant un bonsaï, des pyjamas de soie, des équipements d'ivoire et d'ébène pour son bateau baptisé le Batanga. La Première Guerre mondiale éclate. Le projet de bateau tombe à l'eau. Le Batanga est vendu, à perte, bien sûr. Monty devient soldat. Il rejoint les fusiliers royaux d'Afrique. Gravement blessé, il rentre en Angleterre. Complètement ingérable, Monty rend folle toute la famille. Sa mère la première, qui se faisait pourtant une joie de retrouver son fils. Ce n'est pas tout. Une fois remis sur pied, Monty, qui s'ennuie, trouve une nouvelle occupation. Tirer au pistolet sur les passants par la fenêtre de sa chambre. Il vise ses voisins, enfin, surtout ses voisines.
Monty n'exprima aucun repentir. C'est une vieille idiote qui descendait la rue en tortillant du croupion. Je n'ai pas pu résister. Un pruneau à droite, un pruneau à gauche. Elle a détalé comme un lapin. Il canarda ainsi Madge un jour dans le jardin. Elle fut terrorisée.
« Je ne vois pas pourquoi, s'offusqua Monty. Elle ne risquait rien. Elle croit peut-être que je ne sais pas tirer. »
Quelqu'un porta plainte. Et nous eûmes la visite de la police. Monty produisit son permis de port d'armes et expliqua forcensément sa vie de chasseur au Kenya et son désir de garder la main. Une espèce de folle s'était imaginée qu'il la visait, elle, alors qu'il avait vu un lapin. C'était tout Monty, cela. Il s'en sortit. La police accepta ses raisons et trouva cela tout à fait naturel pour un homme qui avait mené la vie du capitaine Miller.
Au final, Madge et Agatha vont débourser 800 livres pour un cottage dans lequel le frère prodigue va s'installer, dorloté par une nurse miraculeuse, une Mrs. Taylor, qui accepte de lui cuire un steak à 4 heures du matin.
Là où Monty a vraiment eu de la chance, c'est que jusqu'à la vieille Mrs. Taylor, il s'est toujours trouvé une femme pour venir s'occuper de lui quand il en avait besoin.
Monty succomba à un AVC en 1929, 3 ans après sa mère. Il est probable que sa mort est un soulagement pour Madge et Agatha. Avec lui, les deux femmes ont vécu une double crainte, à la fois peur pour lui et peur de lui. Cette ambivalence, Agatha la décrit avec sagacité dans ses romans, comme dans « Le Noël d'Hercule Poirot », paru en 1938. Le vieux Simeon Lee, patriarche tyrannique, a réuni ses enfants pour les fêtes quand Mr. Tressilian, son majordome, vient l'interrompre.
On me dit que le surintendant de la police est ici pour vous voir, un certain McBride.
Bien, faites-le monter.
La police ? Pourquoi la police ?
Ça ne vous regarde pas. En tout cas, pas encore. Laissez-moi seul, le repas va vous être servi dans une demi-heure. Bon appétit. Et surtout, joyeux Noël. Eh bien quoi, Hilda, pourquoi vous me regardez comme ça ?
Vous avez raison. Votre humour est étrange.
J'ai l'impression de vous faire peur.
J'ai peur, oui. Mais j'ai peur pour vous.
Il faut rendre cette justice à Monty, qu'il a inspiré à Agatha une bonne dizaine de jeunes hommes roublards, faibles et charmeurs, souvent irrésistibles, toujours immoraux. Dans un roman à énigmes, ils font de parfaits suspects et parfois d'excellents meurtriers.
Et puis il y a Charles. Oui, Charles. À quoi bon refuser de regarder la réalité en face ? Charles, aussi adorable soit-il, n'est pas digne de confiance.
Il y a un moment que Georges est sur la mauvaise pente. Voyage en France de temps en temps, et même à Monte-Carlo, où il passe le plus clair de son temps au casino. Trop malin pour encaisser ses chèques là-bas, ce qui ne l'empêche pas de disposer de beaucoup plus d'argent qu'il n'est admis pendant son voyage. En tout cas, les scrupules ne l'étouffent pas quand il s'agit de tourner la loi. À jouer à la bourse ces derniers temps, ainsi que sur ses dadas. Mauvaise intuition et évidente des veines.
David est un jeune homme brun, qui a l'air tout ensemble triste, méfiant et assez insolent. Lynn a compris tout de suite pourquoi les Cloud ne l'aiment pas. Des hommes de ce genre-là, elle en a rencontré au cours de ses voyages. Ce sont des individus qui n'ont peur de rien, mais sur qui on ne peut pas compter. Des types qui n'obéissent qu'à leurs propres lois et trompent tout le monde, qui peuvent être précieux dans un coup de chien, mais deviennent dangereux dès qu'on n'est plus sur la ligne de feu.
Mon amitié pour elle ne m'empêche pas de constater qu'elle est bel et bien sous la coupe de Lorenz et prête à tout pour ses beaux yeux. Il est de cette race de séducteurs totalement dénués de sens moral.
Au rayon de la dangerosité, je précise qu'Agatha est égalitaire. Elle n'épargne pas plus les hommes que les femmes, ni les vieux, ni les jeunes. Toutes et tous sont capables d'assassiner leurs prochains. Toutes et tous susceptibles de pourrir la vie de leurs proches. Parité de malignité, égalité de souffrance. C'est dit par Agatha avec simplicité, entrain et beaucoup d'humour, comme ici dans Jeu de glace.
Les gens n'ont pas vraiment besoin de raison pour éprouver ce qu'ils éprouvent. Ils sont ainsi faits. N'êtes-vous pas de cet avis, Jane ?
Miss Marple se souvint brièvement de Miss Moncrief, qui avait servi d'esclave à une mère tyrannique et gravataire. Pauvre Miss Moncrief, qui ne rêvait que de voyager et de voir le vaste monde. Tout St. Mary Maid s'était réjoui, dans la dignité, est-il besoin de le préciser, quand Mrs. Moncrief avait enfin trouvé sa place au cimetière et que Miss Moncrief, dotée d'un revenu confortable, avait ainsi accédé à la liberté. Miss Moncrief, se lançant dans les voyages, n'avait pas dépassé hier, ou rendant visite à l'une des plus vieilles amies de mère, elle avait été si émue par les mots d'une hypochondriaque âgée qu'elle avait annulé ses projets et pris ses quartiers dans sa villa pour y être tyrannisée et surchargée de travail, aspirant tristement, à nouveau, aux joies des grands horizons.
France Inter. Un thé avec Agatha Christie. Épisode 3. Famille décomposée.
Dans les familles où nous invite la reine du crime, les sentiments sont mêlés. Agatha Christie joue l'ambivalence à fond. Même les maisons sont ambivalentes. Bâtisses, manoirs, cottages sont aussi retors que celles et ceux qui les habitent. Dans les romans d'Agatha, les maisons offrent deux visages. Elles révèlent et cachent, protègent et emprisonnent, structurent et détruisent. Les familles s'y épanouissent et se nuisent. Les titres parlent d'eux-mêmes. Le cheval pâle, la maison biscornue, la maison du péril. En tout, 8 maisons donnent leur nom à un roman. Les habitations sont comme les personnages, ce qui n'échappe pas à notre cher Hercule Poirot.
Que de fenêtres. Une maison, mademoiselle a des yeux et aussi des oreilles.
Comme les hommes ou les femmes, les maisons suscitent les passions. Chez Christie, les personnages s'éprennent ou se déprennent d'elles. Certains sont prêts à tout pour en devenir les propriétaires, jusqu'au meurtre s'il le faut. Les maisons provoquent le passage à l'acte autant qu'elles en sont le théâtre. Encore une fois, l'écrivaine sait de quoi elle parle.
Depuis son enfance, elle aime passionnément les lieux. À commencer par Ashfield, la merveilleuse maison de son enfance. Dans le manoir de Torquay, à Ashfield, elle joue avec son immense maison de poupée de 6 étages, construite dans un vaste placard de sa chambre. Adulte, la romancière a possédé jusqu'à 8 propriétés un peu avant la Seconde Guerre mondiale. De Winterbrook, la dernière maison d'Agatha sur la Tamise, à l'idyllique Greenway House, située dans son Devon natal, en passant par Beth Agatha, la maison d'Agatha à Nimrud, en Irak.
Je me rends parfaitement compte à présent que je n'ai jamais cessé de jouer à la maison de poupée.
Grandeur nature. Agatha est devenue très jeune, riche et indépendante. Ce qui lui a permis d'assouvir sa passion. Acheter des maisons, les restaurer, y déménager, les décorer, les revendre et recommencer. Avec toujours, en toile de fond, le souvenir, ou plutôt la quête, du paradis de son enfance. Le manoir familial de Torquay, son Arcadie. Paradis, paradis, mais est-il si chaleureux que ça, le foyer ? Les lecteurs nagent en plein paradoxe, car les morts tombent comme des mouches dans les maisons de la reine du crime. Schéma récurrent, la maison est confortable, paisible, rassurante, jusqu'à la découverte du corps. L'horreur et la désillusion sont d'autant plus fortes que la place était merveilleuse. Certains personnages ont vu venir le coup. Ils ne sont pas dupes de l'ambivalence du foyer et de la duplicité de la maison. Ils forment, toutes et tous, une catégorie de personnages à part dans les romans d'Agatha Christie. Oui, ce sont des personnages plutôt positifs et contemporains pour le coup. La romancière les traite avec beaucoup d'empathie. Ils refusent de taire plus longtemps l'ambivalence familiale. Ils dénoncent les sentiments mauvais. Ils ne sont pas, ou peut-être plus capables, de mettre le couvercle, comme on dit. Incapables désormais de faire comme si, de faire semblant que tout va bien. Hors de question pour eux d'enterrer un passé douloureux tant que la vérité n'a pas été révélée. Dans le roman « Une mémoire d'éléphant », c'est la courageuse Celia Ravenscroft qui veut à tout prix la vérité sur la mort de ses parents. Dans le Noël d'Hercule Poirot, David Lee ne peut pas enterrer le souvenir du désespoir de sa mère. Dans les vacances d'Hercule Poirot, la jeune Linda Marshall hurle « Je n'oublierai jamais » quand on cherche à lui imposer le silence. Et puis il y a Sandra Faraday, dans « Meurtre au champagne », qui, face à son mari qui lui demande de ne plus penser à son infidélité, lance. C'est facile à dire, nous n'avons pas le pouvoir d'oublier. Agatha Christie a-t-elle affaire ici à une espèce coriace de rancunier ? Agatha n'évoque évidemment jamais la question du patriarcat, mais c'est en décrivant ses révoltés que l'écrivaine s'y oppose le plus fermement, sans discours politique, sans être idéologue, mais en faisant en sorte que la suite de l'histoire donne toujours raison à ces ultra-sensibles qui refusent d'oublier. Oui, il y avait bien un éléphant dans le salon. Un éléphant malfaisant et violent. Alors, selon Agatha Christie, les choses sont claires. Pour la bonne santé des familles, la chasse aux éléphants est ouverte.
This is why, when you tell me that you love me, something you said, oh, 1,000,000 times. I pretend that I don't care and act like I didn't hear. I even fight back a smile. And this is why, when you tell me that you love me, these 3 words make me want to cry. Imagine what your kisses do when mixed with an I love you. You make me feel like I can only die. You make me hot in December.
C'était Alani avec This Is Why. Nous sommes ensemble dans un thé avec Agatha Christie et il est temps de retrouver notre invitée, la philosophe Laurence de Villers, avec qui nous allons évoquer le bien et le mal, bref, la Christie moraliste. Bonjour Laurence de Villers.
Bonjour.
Avez-vous un souvenir d'Agatha Christie que vous souhaiteriez nous faire partager, hein, une lecture, une première rencontre, un film?
Alors, pour vous répondre très honnêtement, j'ai l'impression d'avoir toujours vécu avec Agatha Christie. Et je crois que c'est le propre d'Agatha Christie. On ne se pose pas la question de la première fois où on l'a lu. C'est plutôt, on s'interroge sur le fait qu'on ne cesse de la lire. Mais si j'essaie de remonter à un souvenir originel, c'est Le miroir se brisa, donc le titre est quasiment le même en anglais, c'est la dernière période d'Agatha Christie, enfin presque la dernière, c'est 1962. Et je me souviens de ce papier qui avait une odeur bien particulière, avec une couverture très kitsch.
Vous aviez quel âge, pardon ?
15 ans, quelque chose comme ça, 14-15 ans. Et je me souviens encore du choc. Alors, ce livre est un choc, hein. Ça reste un des livres que j'ai le plus lu d'elle, relu. C'est un choc parce que, à la fin, on se dit, ah, c'est ça! Et donc, Agatha Christie, elle joue sur le temps, sur la temporalité, sur la réalité. C'est-à-dire que elle dévoile et elle révèle. Enfin, le meurtre dévoile et révèle. Tout d'un coup, on se dit qu'il faudrait reprendre la vie des personnages ou du personnage, et la retourner comme un gant pour en avoir la vérité. Donc, d'un coup, on se dit, il faut aller en arrière, en réalité. On se dit qu'il faut renverser la temporalité qui part d'un passé pour aller au présent. En fait, faut partir même du futur et retourner à un passé qui explique tout. Et surtout, ce qui m'avait frappé, et ça me frappe toujours, c'est que la vie, la tragédie, le meurtre, ça peut être totalement anodin. Ça peut être... En fait, Agatha Christie a tellement joué sur le temps, la réalité, on l'a dit, le bien, le mal, et même coupable et innocent. C'est-à-dire qu'en réalité, le coupable est parfaitement innocent, et même le coupable, c'est-à-dire le meurtrier, est aussi innocent d'une certaine façon.
Oui, elle sépare l'intention des actes. Je voudrais savoir, vous qui êtes philosophe, comment vous la lisez? Est-ce que vous la lisez en philosophe? Comment vous la lisez? Parce que vous disiez, je continue perpétuellement à la lire.
Ah oui, perpétuellement, et je sais que là, à Noël, je vais relire un Agatha Christie, je pense l'affaire Protero, parce que je l'aime énormément. Alors, je la lis en philosophe. D'abord, il y a une raison, c'est la philosophie pour moi, ce sont mes yeux. Donc la philosophie, c'est pas dans les livres pour moi uniquement, c'est la manière dont je regarde les choses. Donc la philosophie, c'est ma manière d'appréhender les choses et le monde et les êtres. Donc je la lis en philosophe et c'est très très riche. Et alors, je vais peut-être vous étonner, mais je la lis et à chaque fois je me dis, mais comme j'aimerais être réalisatrice ou avoir un théâtre et je rêve de la monter. À chaque roman, nouvelle que je lis d'Agatha Christie, je trouve qu'elle a un sens scénique exceptionnel, exceptionnel, et à chaque fois je me dis, ah, j'aimerais tellement me faire mes petits meurtres, mes grands meurtres d'Agatha Christie.
Alors, justement, c'est sans doute pas étonnant parce qu'elle était dramaturge, et justement, vous tireriez de quel côté? Parce qu'elle a été adaptée de mille façons, et c'est à mon avis, une des marques de sa richesse, c'est-à-dire qu'entre les petits meurtres d'Agatha Christie français de Sophie Réville ou Sarah Phelps, vous pencheriez de quel côté?
Moi, je la tirerais du côté Sarah Phelps, je la tirerais du côté sombre.
Ouais, de la noirceur.
Ah oui, je pense qu'il y a quelque chose chez Agatha Christie qui fait frémir. Il y a, à mon sens, l'idée qu'elle développe, et c'est pour ça que je vous disais que je la lis maintenant en philosophe, et je dirais même en théologienne, je pense qu'elle met au jour l'idée d'un mal originel. Je dirais pas le péché originel, parce qu'il y a quand même des innocents et des coupables, mais pour elle, je crois qu'il y a un mal originel. C'est-à-dire, il y a un penchant au mal chez tout le monde. Personne n'est épargné, donc il y a ce penchant au mal qui est originel, et je trouve que c'est intéressant dans leur zéro. Leur zéro, c'est quoi? C'est pas un motif. Ce qui est intéressant, c'est pas le motif du criminel, du meurtrier. C'est leur zéro, c'est-à-dire ce moment où le mal, où il a cédé au mal. Et on pourrait tous céder au mal. Mais il y a un moment donné, il y a une heure zéro où vous dites oui au mal.
Vous avez écrit un très beau livre d'ailleurs qui s'appelle « La splendeur du monde ». Agatha, c'était la reine du crime. Était-elle, selon vous, sensible à la splendeur du monde?
Ah oui, il y a de la lumière, il y a des fleurs, je sais plus dans quel roman, je me demande si c'est pas Meurtre-t-il facile, bon, où Miss Marple est au balcon et elle s'émerveille devant ces fleurs, et en même temps on sent déjà que ça va pas être si simple. Donc il y a à la fois là une sorte d'abondance de beauté dans la nature. Il y a des amis, l'amitié est très belle chez Agatha Christie. Il y a souvent même Hercule Poirot est touché par des femmes, très souvent d'ailleurs, qui viennent réveiller une sensibilité chez lui. Donc il y a une beauté du monde. Oui, il y a ce fruit mûr, resplendissant, un après-midi d'été dans les cinq petits cochons, où toute la nature semble nous porter vers le bien. Je crois que la nature est toujours une messagère. Elle vient nous dire, regarde, la beauté est là, le bien est possible, mais le ver est dans le fruit.
Oui, d'ailleurs, il y a un jardin à Torquay, des plantes puissantes, des potentes plantes ou plantes toxiques. Et donc, il y a toujours cette ambivalence, finalement.
Bah, le jardin, c'est le jardin d'Éden. Mmh. C'est-à-dire que, oui, c'est le plus beau des jardins et c'est un jardin qui devrait durer pour toujours, où rien ne meurt. Mais quand même, c'est là où va surgir la plante toxique, le serpent, peu importe comment on l'appelle.
Une question que je me pose, c'est est-ce qu'elle a compté dans votre travail? Dans votre vie? De quelle façon?
Alors, dans ma vie, c'est une certitude, c'est-à-dire que tous ces livres m'ont marqué. Il n'y en a pas un qui ne m'ait pas marqué. Et puis, c'est une réserve. C'est-à-dire que je sais que j'aurai toujours quelque chose à lire, parce qu'il y a Agatha Christie. Dans mon travail, absolument, enfin, j'ai travaillé et je travaille toujours sur le bien et le mal, la gentillesse et les méchants. Et Agatha Christie est fondamentale pour comprendre philosophiquement et je dirais même théologiquement, comment se nouent ces relations qui restent un mystère entre le bien et le mal, entre le fait qu'on peut être quelqu'un de gentil qui bascule vers la méchanceté, ou quelqu'un de méchant qui est capable de sauver lui-même ou d'être sauvé.
France Inter. Un thé avec Agatha Christie. Sonia Fertchak.
Je précise que vous êtes, Laurence de Villers, spécialiste de philosophie morale. Et donc, Agatha questionne le bien et le mal. Et est-ce que vous diriez qu'elle est moraliste?
Alors oui et non. C'est-à-dire oui, parce que dans certains de ses romans, plus que dans d'autres, on sent qu'il y a une morale. Et souvent, Hercule Poirot d'ailleurs, ou Miss Marple, délivre une morale. Mais je dirais non aussi, parce qu'elle moralise pas. Oui. C'est-à-dire à nous de comprendre, et c'est ça aussi la force du roman qui est pas un traité de philosophie, à nous de comprendre ce mystère du mal. Et je crois qu'elle ne moralise pas au sens où il y a toujours une suite, rien n'est clos, rien n'est terminé. Parce que la morale de l'histoire, on a l'impression, voilà, c'est clos, il y a eu cette histoire, on vous dit ce qu'il faut comprendre. Chez Agatha Christie, je trouve qu'elle arrive à maintenir le mystère.
Quand vous dites que Hercule Poirot ou Miss Marple délivrent une morale, laquelle par exemple?
Alors, je crois qu'ils ne se ressemblent pas du tout. Je pense même qu'ils sont totalement antagonistes. C'est pas le frère et la sœur, ils sont pas cousins. Pour Hercule Poirot, c'est la vérité. Je crois que ce qui se joue de manière générale chez Agatha Christie, c'est que faire du mal ou comment faire face au mal. Je crois que c'est la question. La réponse de Poirot n'est pas celle de Marple. La réponse de Poirot, c'est la vérité. Et on insiste beaucoup sur ces cellules grises, la raison, la déduction. Je crois qu'en fait, c'est pas l'essentiel, c'est pas ça qui résout. On a l'impression que c'est ça qui résout, mais quand on regarde de près, c'est très fragile. La raison, les petites cellules grises d'Hercule Poirot, c'est souvent une sorte de maniaquerie, d'obsession de la symétrie, donc c'est plutôt risible. Et puis, le langage de la raison chez Hercule Poirot, il parle un sabir, on le dit tout le temps, c'est pas seulement parce qu'il parle pas anglais, c'est qu'en fait, il se fait pas comprendre. Donc, je crois qu'au contraire, il y a une forme de sarcasme d'Agatha Christie envers l'idée, je dirais Sherlock Holmes, l'idée Sherlock Holmes que seul la raison peut vaincre le mal. La force de Poirot, c'est la vérité à tout prix.
Et pas Marple ?
Non, Marple, je crois que ce qui l'intéresse surtout, même si évidemment il y a la révélation d'une vérité, mais c'est la nature humaine. Et elle le dit qu'en fait, elle est un médecin de l'âme, elle est d'une certaine façon philosophe. Parce que, pourquoi ? Parce qu'elle pense qu'il y a une nature humaine. Dans chacune de ces énigmes, on a une définition de ce que peut être la condition, la nature humaine.
Qu'elle extrapole de son observation de Sainte-Marie-Mède.
Exactement, de son petit village.
De son petit village anglais.
Ce qui fait d'ailleurs... Vous voyez, les armes rationnelles chez Agatha Christie, je pense que c'est la grande différence avec Sherlock Holmes, font toujours rire. Parce que quand elle dit « Ah, ça me rappelle le petit machin dans mon village qui avait volé au boucher », tout le monde rigole parce que ça semble tellement faible par rapport au grand meurtrier, à l'énigme, à l'intrigue. Donc, encore une fois, je pense que les armes rationnelles de déduction, d'enquête, paradoxalement, parce qu'on a l'impression que c'est le houdounite, le qui l'a fait, l'enquête par excellence, mais pas du tout. Moi, je ne vois pas du tout comme ça, et je trouve que c'est la richesse d'Agatha Christie. En fait, le but poursuivi est plus fort que les armes qu'on met en œuvre pour y aboutir. Donc, la vérité chez Hercule Poirot et la nature humaine chez Miss Marple, on a l'impression que ce qui l'intéresse, c'est pas tant d'avoir résolu l'intrigue. Pour elle, c'est... En plus, elle se met pas tellement en valeur. Pour elle, c'est... Elle a toujours déjà compris, en fait. C'est déjà résolu pour Miss Marple. Mais c'est qu'est-ce que ça dit de l'être humain?
Et alors, Laurence de Villers, en vous écoutant, je me dis que tous les deux, par ailleurs, Hercule Poirot et Miss Marple, ils sont très soucieux d'amour. Très souvent, il se préoccupe du bien-être, de réunir de jeunes gens en général. Là, on est du côté du bien. Et est-ce que c'est grotesque ? Qu'est-ce que ça marche ? Qu'est-ce que ça dit ?
Moi, je pense que c'est important. On le voit toujours comme une sorte d'eau de rose qui vient un petit peu mettre de couleur dans tout le sombre du meurtre. Et on le voit comme quelque chose d'accessoire, une histoire d'amour que Poirot a déjà comprise, mais que les protagonistes n'ont pas comprise. Mais je crois que ça veut dire par contraste, le méchant, le meurtrier, mais qui est un méchant, c'est la brutalité. Je crois qu'en fait, l'histoire d'amour, c'est pas du tout une note de bas de page dans les romans d'Agatha Christie, c'est pour montrer que face à l'extrême sauvagerie et à la brutalité du meurtre et du meurtrier, bah, il y a cette beauté qui peut paraître parfois même un peu trop mièvre, voire naïf, il y a la beauté du fait d'être capable quand même d'aimer un autre.
Et alors j'en viens, parce que là on est dans un thé avec Agatha Christie, quelque chose, on parle parfois de cozy crime, est-ce que vous avez eu peur, Laurence de Villers, en lisant parfois Agatha Christie?
Ah oui, et je continue à avoir peur. Enfin, moi, mon Agatha Christie, je la tire vers... c'est Sarah Phelps, parce qu'il dit que c'est archi-brutal, Agatha Christie. Et je suis d'accord. Je crois qu'il y a... Les meurtres sont atroces. Et c'est pas parce qu'il y aura un débordement de sang. Il y en a, d'ailleurs. Mais les meurtres sont atroces pour deux raisons. D'abord, parce que, encore une fois, je crois que ça dit qu'il y a un mal originel. Et que c'est difficile d'y échapper. Il faut à la fois être capable de voir la beauté, l'amour, et être capable soi-même de bonté pour ne pas céder à cette heure zéro qui fait que vous allez dire oui au mal. Et la deuxième raison pour laquelle c'est sombre, c'est que c'est tout le monde, et même un enfant.
Donc, et de là vient la peur ?
Ah oui, de là vient la peur, parce que je crois qu'Agatha Christie nous dit « Et vous ?» Et qu'est-ce qu'il en est de toi? Quelle est ton heure zéro? Parce que, bon, alors peut-être que je vais faire un aveu terrible, mais on a toujours eu envie de meurtre. Enfin, on a des envies de meurtre.
Oui, mais alors en même temps, comme dit Poirot dans Je ne suis pas coupable, entre l'intention et le passage à l'acte, ça fait quand même toute la différence. Et même l'expression de l'intention, on n'est pas obligé de le dire.
Alors, je suis d'accord parce que c'est important que chez Agatha Christie, de même qu'il existe du bien et de la beauté, l'innocence est quelque chose sur laquelle faut pas transiger. Et ça, c'est une des forces de Poirot. Et je trouve que c'est contraire à ce que dit Marple. Pour Poirot, la vérité veut dire quoi, fondamentalement? Il y a des coupables et des innocents. Pour un acte donné. Et Poirot, c'est un peu... je trouve qu'il a quelque chose de très... théologique, voire divin, voire christique. C'est un peu le messager des dieux, Poirot. Il vient rétablir la frontière stricte entre l'innocence, y compris quand il s'agit d'un meurtre d'il y a 30 ans, mais entre l'innocence et la culpabilité, pour qu'il y ait cette frontière nette. Chez Marple, c'est différent, parce qu'elle dit qu'il y a une nature humaine où il y a une sorte de mal originel. Donc la frontière semble plus floue. Mais oui, bien sûr, je crois qu'Agatha Christie dit à la fois, on est tous capables, dans le vallon, c'est très net,
on est tous capables,
même si on est timide, timoré, apeuré, fragile, et on a été humilié, on est capable de meurtre. Et en même temps, ne nous trompons pas, il ne faut pas mélanger les coupables, il ne faut pas créer de zone grise, il y a des innocents et il y a des coupables. C'est-à-dire qu'il y en a, c'est vraiment leur zéro, hein. Il y en a qui vont passer à l'acte.
Est-ce que vous avez un roman préféré ?
Ah, c'est difficile, ça.
Oui, je sais. Vous avez le droit d'en avoir trois.
J'ai le droit d'en avoir trois. Super. Ouais. Donc, Protéro, parce que je trouve que... ça va peut-être vous surprendre, mais on a une tragédie grecque. Enfin, y a...
Ah oui, en quoi ?
Ah oui, pour moi, c'est... Moi, je ne veux pas le divulguer non plus, mais... Il y a un personnage de Phèdre, quasiment. Enfin, je trouve qu'il y a quelque chose de très, très puissant. Ça semble, au départ, une histoire d'amour, une passion amoureuse, des crimes passionnels. Ah non, il y a quelque chose de très puissant qu'on a aussi dans le meurtre d'Halloween. Hein. Il y a des personnages féminins, je trouve, chez Agatha Christie, qui sont pas loin de cette Phèdre qui aime à en mourir. Mmh. Alors, chez Agatha Christie, si on aime jusqu'à en tuer. Mais... Donc, l'affaire Protéro, le crime de l'Orient Express, parce que d'abord, il faut quand même y songer. Et puis, là aussi, c'est très... c'est très christique quand même. Ils sont 13. Enfin...
Ouais, et d'ailleurs, Kenneth Branagh a fait la fin du film. C'est la scène de l'honneur de Vincent.
Et je trouve que c'est assez bien vu.
Ça, ouais,
et,
bien.
Et Poirot est un messager des dieux. Hein. Poirot est un messager des dieux. Et puis, j'aime énormément les 5 petits cochons parce que ça retient les deux. Les deux choses que j'aime, et dans l'affaire Protéro et dans le crime de l'Orient Express. L'amour jusqu'à en tuer. Et puis, quelque chose, il y a... Il y a une sorte de marche implacable, mais qui ne renverse pas notre liberté, parce qu'on pourrait à chaque fois dire « Non, non, on va pas tuer ».
Oui, elle tire les fils, mais les personnages sont libres.
Et puis aussi, ce que je trouve extraordinaire chez Agatha Christie, c'est qu'à la fin, on se dit qu'on n'a rien vu, on n'a rien compris, et il faut voir la réalité autrement. Il faut tout reprendre.
Ouais, et c'est pour ça qu'on y revient. Merci beaucoup, Laurence de Villers. Et j'annonce le titre de votre prochain livre à paraître en mars 2026, « Vengeance, le droit de ne pas pardonner », un thème très Agatha Christie, et c'est chez Stock. C'est la fin de notre troisième épisode d'Un thé avec Agatha Christie, avec les voix de Perrine Marillier, Catherine Pietri et Frédéric Constant. Et merci à toute l'équipe qui m'a bien aidé à préparer cette émission, Guillaume Giraud à la réalisation, à la technique Sybille Clamins et Guillaume Roux, programmation musicale Djoubaka, Emmanuel Lucioni à l'INA pour la documentation, et merci à Marius Series, attaché de production. Je vous retrouve demain à 16h sur France Inter. Notre quatrième épisode d'Un thé avec Agatha Christie sera intitulé Corpus Christi. Nous parlerons de scènes de crime et aussi du métier d'infirmière.